Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Vérifier l'implication du Rwanda dans la guerre à l'est de la RDC. C'est l'objet de la mission du mécanisme conjoint de vérification élargie le jeudi dans le Lubero au Nord Kivu. Cette visite intervient 12 jours après la capture au front par les FARDC d'un présumé soldat de l'armée rwandaise. L'exercice budgétaire clos 2024 a enregistré un taux de réalisation de 103% par rapport aux prévisions, soit une augmentation comparée à l'année 2023. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, se félicite dans son communiqué officiel parvenu hier à Radio Okapi. Et puis, l'invité de ce matin, Jacques Joly, rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, il a été l'un des panélistes aux travaux des États généraux de la justice. Il revient notamment sur la loi de programmation de la justice qui devra figurer parmi les matières prioritaires de la session parlementaire de mars 2025. Mais sachez tout d'abord que les médecins membres du syndicat national Sinamed, ville-province de Kinshasa, décident de poursuivre leur mouvement de grève sous la forme concentration des urgences. Décision prise hier vendredi à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire à Kinshasa. Leur secrétaire exécutif provincial, Dr Patrick Boloko, l'a fait savoir dans un entretien hier même à Radio Okapi. Il demande cependant à tous les médecins affiliés au Sinamed de se conformer scrupuleusement à ces modalités et promet une évaluation à mi-parcours le vendredi 10 janvier courant. Docteur Patrick Boloko explique la situation. Il est joint par Blaise Ndongala Mayanda.
La poursuite de la grève sous forme polarisation des urgences se présentera de la manière suivante. Deux hôpitaux prendront en charge que les urgences du samedi 4 jusqu'au vendredi 10 janvier 2025. Samedi 4 et dimanche 5, hôpital général Njili, Istem, et centre mère et enfant Barumbu. Lundi 6 et mardi 7 janvier, hôpital général de Kinkole et clinique Ngalima. Mercredi 8 et jeudi 9 janvier, hôpital général de Kitambo et les cliniques universitaires de Kinshasa. Et enfin, vendredi 10 janvier 2025, clinique kinoise et mère et enfant Ngaba. Pendant ces temps, seuls ces hôpitaux cités si haut prendront en charge que les urgences. Les autres hôpitaux ne pourront pas recevoir les malades et les malades hospitalisés seront envoyés dans des hôpitaux privés.
Notez que les blouses blanches réclament entre autres l'alignement de 1000 médecins à la prime professionnelle et le paiement des deuxièmes paliers de logement et transport. Madame, Messieurs, bonjour. Une délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie a séjourné jeudi dans le territoire de Lubero, Nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, cette délégation avait pour mission de vérifier l'implication du Rwanda dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Une visite qui intervient 12 jours après la capture au front d'un présumé soldat de l'armée rwandaise par les FARDC. André Kitenge nous en dit plus.
C'est sur invitation du gouverneur de la province du Nord Kivu et du commandant des opérations du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord que cette délégation est arrivée jeudi à Lubero Centre, à environ 50 km des lignes de front. Selon le colonel Makazukai, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, l'objectif de cette délégation était de se rendre compte de l'implication directe du Rwanda dans la guerre de l'Est à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie et d'autres structures qui prônent le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. La même source ajoute que les membres de cette délégation se sont entretenus avec le présumé soldat de première classe de l'unité spéciale de l'armée rwandaise, capturé au front par les FARDC le 21 décembre 2024 lors des affrontements avec les FARDC dans le village de Ndolouma, au sud du territoire de Lubero. Enfin, plusieurs effets militaires, dont des armes, des bombes et autres épaves de drones récupérés sur les champs de bataille, ont été également présentés à la délégation, renseigne le colonel Makazuka. Kai, André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Entre-temps, la localité de Katale, dernier verrou du chef du territoire de Masisi au Nord Kivu, est passée sous occupation des rebelles du M23 hier après-midi. C'est à l'issue des violents combats qui ont opposé ces rebelles au FARDC, appuyés par les groupes armés locaux. Cela, toute la journée de vendredi. Du coup, Louchébéré et Masisi Centre, environ 10 km de Katale, s'est vide de leurs habitants. La coordination territoriale de la société civile de Masisi s'est dit inquiète de voir cette avancée des rebelles qui ont lancé simultanément les offensives sur plusieurs fronts dans le Masisi. Cela après quelques semaines d'accalmie apparente. Télésphore Mitondeke, président de la société civile de Masisi, décrit ici la situation et appelle à une action urgente pour stopper la progression de l'ennemi. Il est joint par Denise Lukeso.
L'ennemi qui a concentré en tout cas des assauts de grande envergure sur les collines qui surplombent Katale, et à travers ces assauts, l'ennemi vient s'emparer de la cité de Katale, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils. Plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Masisi et d'autres victimes à Louchébéré sur le même axe. Vaudra noter aussi des affrontements qui ont encore émaillé la même journée d'aujourd'hui sur l'axe Kaira et sur l'axe Bweremana aussi, faisant ainsi 6 victimes parmi les populations, dont 2 femmes tuées à Renga et 4 personnes blessées. C'est le sang qui a encore coulé sur l'ensemble du territoire de Masisi aujourd'hui. Même la cité de Masisi, soit en tout cas une agglomération fantôme. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations. Donc la situation va de mal en pis dans la région. L'armée rwandaise ne cesse de se renforcer dans la région sur les axes Katale, sur les axes Kaira et même aux alentours de la cité de Sake. La situation s'empire davantage et donc ça révolte. Et cette question mérite une prise en charge urgente.
Par ailleurs, dans la localité de Bweremana, groupement Mfunishanga, un calme précaire est observé après des combats hier matin, combats dont le bilan civil est des 2 femmes tuées par des bombes larguées par le M23 à Renga et 5 blessés. Pendant ce temps, l'ONG Makoki International Hub lance une campagne de sensibilisation sur le procès des violations massives des droits humains commises au Nord Kivu. Procès en cours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans un communiqué du 28 décembre dernier, cette ONG affirme que selon le vice-ministre congolais de la justice, chargé du contentieux international, une audience publique se tiendra le 12 février prochain au siège de la Cour africaine pour statuer sur ces accusations. Rappelons que la RDC a déposé une requête depuis septembre 2023 où elle accuse le M23 soutenu par le Rwanda des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Écoutons à ce sujet Maître Arlette Kitumaini, directrice exécutive de Makoki International Hub, propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Ce procès est crucial car il représente une opportunité significative de rendre justice aux victimes des violations massives des droits humains en Nord Kivu. En tenant les responsables de ces atrocités pour compte, il envoie un message fort aux auteurs des violations qu'ils ne peuvent agir en toute impunité. De plus, ces procès pourraient établir des précédents juridiques importants pour des cafetiers, renforçant ainsi la protection des droits humains en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pour ce faire, Makoki International Hub lance cette campagne de 6 semaines où des contenus médiatiques tels que des articles, vidéos et infographies seront produits pour mobiliser et informer le public sur le procès et son importance. Nous demandons alors au public de rester informé et de partager les informations sur le procès pour sensibiliser davantage. Au gouvernement congolais, nous demandons de garantir la transparence et de soutenir les victimes tout au long du processus.
Rendons-nous en Ituri. Le territoire de Mahagi est en pleine saison de récolte agricole. Cependant, les habitants de plusieurs localités de la chefferie de Panduru n'ont pas accès à leurs champs. En cause, la présence des miliciens de la Codeco qui les empêchent de jouir des fruits de leur travail. La société civile territoriale qui le rapporte sollicite des actions militaires d'envergure pour libérer ces entités de l'emprise de cette milice venue du territoire voisin de Djougou. Déogracias Oudaga, porte-parole de la société civile de Mahagi, explique. Il est joint par Sadiq et Aboubakar.
En chefferie de Panduru, dans presque toutes sa partie limitrophe avec celle de Walendouati, la milice Codeco s'intéresse des isolations. Et la population des localités telles Yagou, Pamoné, Ali, Aou, Ambe, Rimba, pour ne citer que ceux-là, connaît quotidiennement des actes d'exaction de la part de cette milice Codeco qui serait basée du côté des Katanga en chefferie de Walendouati. En cette période de récolte en territoire de Mahagi, toutes ces localités que je venais de citer ici sont vidées de leur population qui font mouvement vers celles encore en sécurité. Sinon, Codeco veut dire coopérative pour le développement du Congo. Et donc, pour développer, il faut massacrer, il faut violer, il faut voler, il faut piller. Nous sommes en train d'exhorter nos gouvernants de prendre à bras le corps tout ce qui se passe en territoire de Mahagi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans le sommaire, l'exercice budgétaire clos 2024 a enregistré près de 9 milliards de recettes internes, soit un taux de réalisation de 103% par rapport aux prévisions, se félicite le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Dans son communiqué officiel parvenu hier à Radio Kapi, le ministre des Finances précise qu'en 2023, les recettes atteignaient 88% de réalisation par rapport à la prévision. Pour lui, la mobilisation des recettes intérieures en 2024 représente une augmentation de 27% en francs congolais et 19% en dollars américains. Explication Michel Kifindangoy.
Comparé à l'année 2023, dont les recettes réalisées se situent à près de 20 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 80%, l'année 2024 connaît une augmentation de 27% en francs congolais et 19% en dollars. D'après Alain Malade Takafunda, directeur de cabinet du ministre des Finances, ces recettes de 2024 ont été réalisées à plus de 103% par rapport aux prévisions. Selon le ministre des Finances, la DGDA a réalisé 94% par rapport aux prévisions de plus de 6 milliards de francs congolais. La DGI, elle, a réalisé 108% par rapport aux prévisions de 14 milliards de francs congolais. Et enfin, la DGRAD a réalisé près de 4 milliards de francs congolais, soit 101% par rapport aux prévisions. Pour l'exercice budgétaire 2025 et au regard des défis et enjeux, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, invite les régies financières à redoubler davantage d'efforts afin de doter le gouvernement des ressources financières conséquentes pour la mise en œuvre de son programme d'action.
Direction le Sud Kivu. Les forces vives du territoire de Mwenga s'organisent pour barrer la route à la fraude minière devenue monnaie courante dans cette partie du pays. Cela sous la barbe des services étatiques habilités, disent-elles. Toutes les organisations de la société civile conviennent de bloquer le passage aux engins et autres matériels destinés aux travaux d'exploitation illégale des minerais par les étrangers. Elles disent vouloir accompagner les efforts du gouvernement provincial qui se bat contre l'exploitation illégale des ressources minières de la province du Sud Kivu. Les forces vives du territoire de Mwenga sollicitent l'implication du gouvernement central. L'un des participants à la réunion de prise de décision pour décourager les exploitants illégaux, Lungele Itebo Samuel, président du bureau de coordination forces vives du territoire de Mwenga, explique la situation au micro de Jean Kassami.
Bien sûr, c'est depuis le 15 novembre 2024 que la société civile avait organisé une réunion de réflexion sur l'exploitation minier en territoire de Mwenga. Et à l'issue de cette réunion, il y a eu des recommandations formulées. Il y a eu une marche pacifique de la société civile et toutes les tendances confondues contre l'exploitation illicite des minerais en territoire de Mwenga en ville de Kamituka. Pas de société en capitaux chinois et autres. Et la population du territoire de Mwenga a barricadé la route à Kakemenge qui tout est en chefferie de Wamuzimu, Kamituga, ville de Kamituga, et à Kasika, chefferie de Luindi, pour stopper, freiner et arrêter les carburants des Chinois pour qu'ils ne puissent plus exploiter. Selon le ministre national des mines, en territoire de Mwenga, il n'y a pas une société minière à règle avec l'État congolais.
Santé à présent. La variole de singe appelée monkeypox continue à gagner du terrain dans le Haut-Katanga. 18 zones de santé sur 27 ont déjà notifié des cas. Pour cela, la population est appelée à se protéger contre cette maladie et lutter contre sa propagation. Ceci ressort de la réunion de coordination de lutte contre le monkeypox, réunion tenue mardi 2 janvier 2025 à Lubumbashi sous la conduite du ministre provincial de la Santé, Joseph Sambibulanda. Écoutons à ce sujet, Dr. Nick-Thérèse Kailanyanga, médecin inspecteur provincial de la santé dans le Haut-Katanga, propos recueillis par Jean Gandou.
Dans le cadre de la multisectorialité, toutes les parties prenantes sont prises en compte. L'approche une santé y compris. La formation du personnel et la communication sont des piliers d'urgence. La surveillance épidémiologique montre un cumul de 148 cas suspects notifiés, dont 12 positifs. 18 zones de santé sur 27 sont déjà touchées. Les cas évoluent en dents de scie, d'où l'organisation des recherches actives des cas. Pour ce qui est de la prise en charge, cette dernière est gratuite. Des ambulances sont mises à disposition. Les médicaments, les intrants de laboratoire et autres sont dotés tout à fait cessantes. Quant à la communication, plusieurs stratégies sont retenues. Nous rappelons la population à se protéger contre cette maladie car elle circule dans notre province. Signaler tous les cas constatés dans la communauté et consulter les centres de santé les plus proches. Nous sollicitons par l'infosensibilisation de toutes les couches de la population à une vigilance sanitaire, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Actualité internationale.
Le nombre des migrants arrivant chaque année en Europe reste préoccupant, mais un groupe en particulier appelle à une attention immédiate. Ce sont les enfants. L'UNICEF lance ainsi un appel pressant, exhortant les gouvernements à placer la sécurité des enfants migrants au premier plan. Une déclaration qui fait suite à un nouveau drame en Méditerranée où un naufrage a causé une vingtaine de disparus, venant alourdir un bilan annuel déjà tragique.
L'invité.
Les États généraux de la justice ont été un des événements marquants du secteur judiciaire de l'année 2024 qui vient de s'achever. Selon le professeur Jacques Joly, rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, après les travaux de ces États généraux, il est attendu prochainement une loi de programmation de la justice pour mettre en exécution les réformes proposées. Pour parler justement de cet événement marquant de l'année dernière, Radio Capi reçoit comme invité un des panélistes à ses réflexions sur la justice congolaise, clôturé le 16 novembre 2024. Il s'agit du professeur Jacques Joly. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Jacques Joly, bonjour. Vous avez été panéliste aux États généraux de la justice, clôturé le 16 novembre. Qu'avez-vous formulé comme recommandation?
La mission du magistrat, c'est d'abord un sacerdoce. C'est une mission qui a pour fondement l'éthique, la dimension humaine, le sens de l'État, la quintessence même de la justice. Et je sais de quoi je parle. Est-ce que l'acteur juge, ou tout simplement l'acteur magistrat, mais au-delà du magistrat, tous les gens de justice, c'est-à-dire le greffier, les secrétaires du parquet, ce qu'on appelait les huissiers de justice, et même les avocats, comment sont-ils formés? Quelle est la sève éthique qui leur permet de saisir la portée substantielle de leur mission? C'était ça notre réflexion. Je n'ai rien contre l'UNAFORGE, mais je crois qu'il y a énormément de choses à faire.
L'UNAFORGE a échoué sa mission.
Je ne vois pas le produit, parce qu'on juge l'arbre par son produit. J'ai vu le contenu du programme. Et j'ai partagé avec ceux qui ont conçu le projet UNAFORGE. Je crois que s'il n'est pas un projet inachevé, c'est un projet à refaire. Nous espérons maintenant qu'à l'issue de cet échange, les recommandations qui ont été prises, qui doivent faire l'objet d'un consensus, vont, n'est-ce pas, s'articuler en termes de projets. Je sais qu'il y a des projets qui vont venir, d'autres sont venus, et ça doit se traduire en actes. Ce qui nous concerne, nous voyons demain l'arrivée d'une loi de programmation de la justice avec tous ses aspects, outre l'aspect formation, outre l'aspect budgétaire, il y a les aspects pénitentiaires.
Ceux qui sont appelés à dire le droit pensent que ça a été un fiasco, les États généraux. Pensez-vous qu'on peut aller à ces réformes sans ceux qui doivent intérioriser ces réformes.
L'échec ou la maladie qui frappe le pouvoir judiciaire ne doit pas être isolé de toute la pathologie sociale. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, la justice élève une nation. Et à ce point de vue, la justice paraît comme l'expression, le thermomètre de cette dérive sociétale globale. Ce qui est important, c'est que nous puissions être capables de nous écouter, magistrats, gouvernants et l'ensemble de la société. Est-ce que les magistrats ont seule la responsabilité de cette dérive? Je ne crois pas. Je crois que lorsque on doit mettre en place un projet, il y a la première chose, effectivement, c'est d'abord la vision. Qu'est-ce qu'on veut? Et lorsqu'on a dégagé le premier V, qui est la vision, c'est le deuxième V. La volonté de traduire cette vision en actes. Et ces actes, ce sont les vecteurs. Et après, il y a tout. Dans les vecteurs, ce sont deux programmes, mais ces programmes doivent être articulés et il y a moyen. Donc, c'est pourquoi je parlais d'une loi programme. Parce que cette loi programme dira, par exemple, que pour refonder notre système judiciaire, en prenant compte tous les éléments, il faut, par exemple, 10 milliards. C'est comme la loi de programmation militaire.
Est-ce que cette justice ne se limite pas aux portes du Parlement avec les immunités et les privilèges des juridictions dont vous jouissez? Aux états généraux de la justice, certains panélistes ont proposé la levée des immunités et privilèges des juridictions qui entravent l'action du ministère public.
Les immunités, ce ne sont pas synonymes d'impunité. Ce sont tout juste des privilèges, s'il faut les appeler ainsi, ou des mécanismes de protection d'une fonction. Je suis député national pour assurer ma mission de représentant du peuple, j'ai besoin d'un minimum de garanties pour assurer mon indépendance. Mais cela ne veut pas dire que, en dehors de cette mission de représentation, si je vais sur un plateau de télévision, je ne bénéficie pas de l'irresponsabilité. Et dans la pratique, je peux vous rassurer, je suis parlementaire il y a plus de 20 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu l'Assemblée ou le Sénat s'opposer à une demande des réquisitions aux fins d'instruction, parce qu'il faut dire que la levée de l'immunité est précédée d'abord par l'autorisation pour aller entendre les députés. Et ce n'est que lorsque l'instruction est terminée qu'on arrive à la levée de l'immunité pour des poursuites.
Votre dernier mot.
On l'a fait de bonne année. Présentons nos voeux le meilleur à tous les auditeurs de Radio Capi, à tous les citoyens congolais et pris de paix et de justice. Nous espérons que la question que nous avons abordée ici, c'est une question qui va nous faire avancer, avancer notre système judiciaire. Mais au-delà de notre système judiciaire, nous avons besoin d'avoir un pays plus beau qu'avant. Ce qui appelle à une refondation de notre pensée globale.
Merci, professeur.
C'est moi qui vous remercie.
Professeur Jacques Joly, rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, répondait aux questions de Jeff Ngoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.